Bon, ben, bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc l'ouvrage de Francis Wolff, Trois utopies contemporaines, chez Fayard, 2017. Alors, juste quelques mots d'abord sur Francis Wolff. C'est une personne qui est née en 1950, qui passe par Louis le Grand, qui entre à l'école normale supérieure en 71. Qui obtient l'agrégation en 1974 et qui fait des recherches dans la philosophie ancienne sous la direction de Pierre Obenque. Ensuite, il passe par divers lycées. Il est chargé de cours à Aix-Marseille, à la Sorbonne. Il passe 2 ans en chaire supérieure à Versailles. Et ensuite, intègre l'école normale supérieure de 92 à 99. Est nommé professeur à Nanterre dans la chaire de philosophie ancienne et revient à l'ENS de la rue d'Ulm en 2001 jusqu'à 2007. Alors, c'est un professeur de philosophie qui s'intéresse d'une part à la philosophie ancienne, mais d'autre part, c'est un militant de la philosophie générale. Et à l'École normale supérieure, il va animer des séminaires sur la philosophie générale, dans lequel il développe une sorte d'humanisme critique. Ce qui fait que dans sa bibliographie, on va trouver trois sortes d'ouvrages. Des ouvrages centrés sur la philosophie ancienne, Socrate, Aristote, Penser avec les anciens. Des ouvrages de philosophie générale. Donc, Le mal, Dire le monde, Notre humanité, Pourquoi la musique, Il n'y a pas d'amour parfait, et c'est dans cette série que se trouvent les trois utopies contemporaines. Et il y a une troisième série d'ouvrages, parce que c'est un passionné de corrida, et donc on va trouver des ouvrages sur la corrida, donc Philosophie de la corrida, 50 raisons pour défendre la corrida, et L'appel de Séville. Mais alors, ce sont des ouvrages tout à fait passionnants, parce que justement, j'ai eu l'occasion, à la suite de ce premier livre, d'aller voir ce qu'il en est de la corrida. Donc, venons-en au livre lui-même. L'ouvrage s'ouvre sur une introduction qui analyse le nouveau régime de l'utopie dans la société contemporaine. Alors, évidemment, l'utopie relève d'une approche ancienne de Platon à Thomas More, Rabelais. On se rappelle que l'utopie a fleuri. Ça reste, à cette époque, une construction spéculative, idéale, abstraite, plus ou moins vide, quelque chose qui permet de rêver la cité idéale. L'âge d'or de l'utopie, c'est le 19e siècle, où là, l'impossible désirable, entre guillemets, est formulé par Fourier, Saint-Simon, Marx. Alors, pas le Marx du Parti communiste, mais les manuscrits de 44 et l'idéologie allemande, Proudhon, etc. Donc, voilà un petit peu cette représentation ancienne de l'utopie. Et cette représentation, elle va s'effondrer au XXe siècle parce qu'on a essayé de mettre en application un certain nombre d'utopies. Et donc, on va faire la mauvaise expérience des régimes totalitaires, que sont le nazisme, d'une part, le nazisme, ce qui se veut une sublimation du pur et qui débouche, comme chacun le sait, sur une politique de terreur, le massacre des peuples, l'extermination, les génocides, la Shoah, etc. Et puis, la deuxième mauvaise expérience, c'est le communisme stalinien, qui là s'appuie sur un idéal d'égalité sociale, mais qui se fracasse sur le socialisme réel, lui aussi fondé sur la terreur, les massacres des populations, la bureaucratie, la police politique. Et au final, le contraire même de l'idéal, la pauvreté. Donc, après ces mauvaises expériences, la société politique tourne la page des utopies et elle va inaugurer ce qu'on va appeler l'ère post-politique. cette ère post-politique se construit, alors je schématise un petit peu, autour de deux consensus implicites. Le premier, c'est le désengagement du politique, c'est-à-dire que les gens sont de moins en moins concernés par le phénomène politique. Et deuxièmement, l'explosion des droits individuels. On assiste à l'atomisation des désirs de l'individu et à une nouvelle attente de l'État comme pourvoyeur et garant des droits, aussi bien des droits créances que des droits libertés. Alors cette revendication infinie des droits de l'individu congédie toute utopie et formule en quelque sorte ce qu'on va appeler l'ère du post-politique. C'est donc dans cet espace post-politique que se dessinent les nouvelles voies, les nouvelles formes de l'utopie, comme va les décrire Wolff. Alors ces nouvelles utopies, elles apparaissent sous forme de crispation collective et elles prennent racine essentiellement sur les inquiétudes et les angoisses qui sont liées au développement de la technologie dans la société. Et notamment, plusieurs inquiétudes, la perte des repères, des frontières de l'humain, on ne sait plus où commence et où finit l'humain, le règne de la biologie et des manipulations génétiques, et troisièmement, l'effacement des sciences humaines au profit des neurosciences, cette suprématie du paradigme collectif, du paradigme cognitif, qui fait que l'humain ne reconnaît plus ses frontières. Donc ce sont ces angoisses qui donnent crédit à de nouvelles crispations utopiques, et notamment deux mouvements qui se cherchent une reconfiguration de l'idéal humain. Un premier mouvement qui est le mouvement suprahumaniste, qui installe l'homme dans un idéal de surpuissance et de jouissance. Et puis à l'inverse, un mouvement infrahumaniste qui situe l'homme dans une communauté morale en continuité avec le monde animal. À ces deux grands mouvements utopiques s'en ajoute un troisième. C'est l'utopie d'un monde ouvert, un monde sans guerre, où chacun peut circuler librement en étant chez soi. Tels sont donc les trois grands courants des utopies contemporaines sur lesquels va s'arrêter Wolff dans cet ouvrage. Premièrement, le post-humanisme. Deuxièmement, l'animalisme. Et troisièmement, le cosmopolitisme. Alors l'animalisme, je ne l'aborderai pas, parce que celle va être la partie qui va être abordée par Claude. Donc, premièrement, l'utopie post-humaniste. Cette utopie post-humaniste, elle est représentée par l'homme en héros conquérant. Ça, c'est la grande figure de cette utopie. Elle fonde un projet d'amélioration infinie des capacités physiques, intellectuelles et morales des êtres humains grâce à la convergence des sciences de pointe, ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanosciences, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. Ce mouvement bénéficie de soutiens économiques et financiers importants, notamment dans la Silicon Valley. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, cette utopie ? Eh bien, elle cherche à gagner une victoire sur le vieillissement et sur la mort, faisant apparaître une nouvelle espèce, libérée du corps et quasi immortelle. Alors, ce que fera Francis Wolff pour chaque utopie, c'est de montrer qu'elles sont reliées à des idées issues des Lumières, des idéaux des Lumières. Et donc le post-humanisme vient bien de là. L'ambition des Lumières, c'est l'émergence d'une intelligence prométhéenne qui se traduit par les progrès de l'esprit humain. Et là, on reconnaît le titre de l'ouvrage de Condorcet, le tableau des progrès de l'esprit humain. Donc cet idéal et de vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec intelligence, avec une intelligence, excusez-moi, plus aiguë, des émotions enrichies. Or, cet idéal bascule dans le mythe du surhomme qui veut se libérer des limitations humaines. Et ce fait, grâce à deux prophéties qui sont autoréalisatrices, premièrement, l'humanisation de la machine. On découvre des machines de plus en plus intelligentes au point de dépasser l'homme, et on situe ce dépassement vers 2045. On entrevoit un développement illimité de l'intelligence artificielle. Et puis, à l'inverse, la machinalisation de l'humain. C'est-à-dire qu'on découvre une médecine qui n'est plus une médecine réparatrice, mais une médecine augmentatrice, qui cherche à améliorer les performances naturelles de l'homme et non plus comme réparer. Donc ces deux prophéties se développent dans un contexte culturel issu du libéralisme, la toute-puissance de la science et de la technique, la levée des tabous religieux, parce que tout est possible grâce à l'athéisme ambiant, et puis une représentation moniste de la nature avec une conception mécaniste de la vie. Alors pourquoi le post-humanisme est-il une utopie? Eh bien pour plusieurs raisons, et j'en ai relevé trois à la suite de Francis Wolff. Premièrement, parce qu'il conçoit l'esprit humain sur le modèle de l'ordinateur, totalement indépendant du corps et du monde. Or, l'intelligence humaine n'est pas seulement du calcul, elle n'est pertinente que quand elle est en situation. Contrairement à la machine, l'esprit humain est sensible à la douleur, à la nausée, à l'humiliation, il est doté de conscience et d'états mentaux, et, peut-on conclure, aussi sophistiqué soit-il, le robot est incapable d'expérience à la première personne et ne peut concevoir aucun rapport au monde. Deuxièmement, le post-humanisme est une véritable utopie parce qu'il relève d'une éthique partielle. La visée libératrice centrée sur l'individu à l'exclusion d'autrui, à l'exclusion également de tout salut collectif. C'est une logique de la puissance illimitée qui promeut une race de surhommes, dominateurs, privilégiés, et qui ouvre à tous les excès, notamment la recherche du plus beau, du plus sain, du plus intelligent, sans jamais s'interroger sur les devoirs envers la société. Troisièmement, pourquoi le post-humanisme est-il une utopie? Eh bien, parce que c'est une doctrine inconsistante. C'est plus folie que sagesse. C'est un projet de vivre plus, qui consiste à sortir des limites de la nature et qui se heurte au jamais assez et au problème de la mort. Ce qu'explique Francis Wolff, c'est que éliminer la mort, c'est éliminer le désir qui donne sens à la vie. Et c'est donc se condamner au cauchemar de l'éternité. Ce qu'on a vu comme un idéal devient un cauchemar. Le projet d'éternité est intenable pour l'individu. La seule façon de promouvoir la notion d'éternité, c'est pour l'humanité et non pas seulement pour l'individu. Donc voilà ce qu'il en est de l'utopie post-humaniste. Alors, je n'aborde pas l'utopie animaliste, j'aborde directement l'utopie cosmopolitique. Alors, on verra que c'est un petit peu différent, parce que cette utopie pose la question du dépassement du politique. Peut-on penser le politique à l'échelle de l'humanité? Voilà la question qui est posée. Peut-on faire le pari d'une police du monde humain? Alors cette utopie, comme la précédente et comme toutes les autres, elle a ses penseurs, ses militants, ses mouvements. Elle a ses philosophes, on peut citer en passant Michael Fessel, Étienne Tassin, Yves-Charles Zarqa. Mais contrairement aux autres utopies, elle ne bénéficie d'aucun financement substantiel et d'aucun soutien dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les médias pour relayer cette utopie. On peut même dire que autant cette utopie a la faveur des intellectuels, autant elle rencontre l'hostilité de l'opinion, et notamment dans le populisme. Alors si on remonte à l'origine de cette utopie, on va trouver, comme pour la précédente, des idées anciennes. D'abord, le cosmopolitisme, c'est un style de vie. C'est celui du citoyen du monde, celui de Diogène, celui qui refuse les obligations de la cité. Mais c'est aussi une tradition humaniste de l'hospitalité, de l'accueil de l'étranger. De façon plus conceptuelle, le cosmopolitisme cherche à résoudre la contradiction de la sociabilité humaine. C'est-à-dire qu'on cherche à organiser d'une part la paix dans l'espace politique et d'autre part la guerre à l'égard des communautés étrangères. Le constat cosmopolitique cherche à sortir de la guerre sans fin entre les hommes, la capacité d'aller et de venir dans un monde sans être traité d'ennemi à l'étranger. Et c'est justement ce que Kant, donc l'homme des Lumières, propose dans un ouvrage qui s'appelle « Le projet de paix perpétuelle », PPP, il organise ce que doit être le droit cosmopolitique. Et il dit « Le droit cosmopolitique est un droit d'accueil et de visite, un droit minimal et conditionnel, qui est garanti par une fédération d'États protecteurs des libertés. » Or, ce droit défini par Kant n'est pas très utopique, puisqu'il existe aujourd'hui. Il existe en Europe aujourd'hui. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'utopie cosmopolitique correspond à l'extrémisation de ce droit qui prétend abolir la guerre, abolir l'extranéité. Alors l'extranéité, c'est un terme un petit peu technique, c'est le sentiment d'être étranger dans le pays, et cette extrémisation du droit en effaçant toute frontière. L'enjeu du cosmopolitisme consiste à ériger la morale en politique en supprimant du même coup le droit politique d'accueil et du coup la morale de l'hospitalité. Le cosmopolitisme exprime une double dénonciation, les frontières à l'origine des conflits de territoire, d'une part, le nationalisme qui s'appuie sur la communauté politique imaginaire. Alors ce contexte du cosmopolitisme, c'est un contexte polémique qui consiste à mettre en accusation l'incohérence qu'il y a entre des politiques migratoires minimalistes, voire restrictives, des politiques populistes de fermeture des frontières, des politiques de limitation du droit d'asile, d'une part, et d'autre part, une cosmopolitisation de fait. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a bien un cosmopolitisme qui constitue le vent de l'histoire, un idéal historique et moral qui s'exprime tous les jours à travers certains phénomènes que je vais citer très rapidement, la mondialisation commerciale, l'émergence d'une conscience planétaire à travers Facebook, Internet, etc., une nouvelle conscience des inégalités arbitraires et injustes, une institutionnalisation du droit international, la Cour pénale internationale, l'ingérence humanitaire, et puis toute la multiplication des échanges, autant sportifs que des étudiants, que des recherches scientifiques, etc. Alors, on peut se poser la question, le cosmopolitisme est-il bien une utopie? Alors, Francis Wolff répond oui et non. Oui, parce que cette idée soulève de nombreuses objections, et non, parce que l'on peut y répondre, et parce que ces objections ne sont pas décisives. Alors, je saute un petit peu tout ce passage, pour retenir que la cinquième objection, en fait, dit-il, le vrai péché du cosmopolitisme, c'est son optimisme. Superposer la communauté morale et la communauté politique, c'est nier la dualité du politique, c'est sous-estimer l'ambivalence humaine, qui est à la fois sociable et antisociable, ou associable, qui est à la fois tournée vers le bien et vers le mal. Et c'est pourquoi réconcilier morale et politique relève peut-être d'une chimère. Cependant, y compris cette dernière objection, Francis Wolff y répond, il y répond de deux façons. Premièrement, entre la morale et la politique, il y a le droit, et le droit n'empêche pas l'émergence d'un droit international en dépit des frontières. Et deuxièmement, la réconciliation de la morale et du politique est rendue possible par la discussion, parce que si l'homme est un animal politique, il est aussi un animal parlant. Par le langage, la cité s'étend à tous les hommes. Et j'ai relevé une citation pour la route. « Le monde est tout ce que l'on peut en dire, et il réunit tous ceux qui peuvent se parler. » Page 160. La deuxième raison qui fait qu'on peut être ambivalent à l'égard du cosmopolitisme, c'est que ce n'est pas une utopie comme les autres, parce qu'elle relève d'une éthique globale. On disait tout à l'heure qu'il y avait une éthique partielle, là c'est une éthique globale. Une éthique qui pense le jeu à travers la liberté, une éthique qui pense le tu à travers l'accueil, l'hospitalité, le souci de l'autre, mais aussi une éthique qui pense la troisième personne, c'est-à-dire le point de vue impartial d'un bénéficiaire universel. Donc, envisager dans le cadre d'un principe de justice et d'égalité, on voit que le cosmopolitisme prend en compte l'homme concret avec ses singularités et ses appartenances. Et en ce sens, et là je ne fais que citer Francis Wolff, le cosmopolitisme, c'est le stade suprême de l'humanisme. Alors, si on veut regarder ce programme du cosmopolitisme, eh bien, on va dire que ce programme exige de la prudence. Il ne s'agit pas d'inventer une citoyenneté mondiale inatteignable, mais de se situer dans l'horizon idéal d'un droit international parfaitement concevable. Alors, pour conclure, juste deux mots de conclusion. Si on veut résumer ces trois utopies, on voit qu'il s'agit bien de trois idéaux des Lumières transformés en utopies, c'est-à-dire qu'on a à la base une volonté de bien faire, mais qui bascule dans l'absolu et qui tombe dans trois formes de démesure. La première, c'est l'illimitation du désir de soi, en première personne, donc le transhumanisme, le post-humanisme. L'animalisme, c'est un désir illimité d'égalité, qui puise son éthique à la deuxième personne dans l'exercice exacerbé de la compassion animale. Et puis le cosmopolitisme, qui est un désir illimité de justice, dans une vision morale et optimiste de l'humanité. Néanmoins, cette utopie est humaniste par définition, et c'est pourquoi elle représente ce qu'on peut appeler, et là ça donne à réfléchir sur l'ensemble des utopies et sur le modèle utopique, elle est une utopie réaliste. L'utopie, c'est l'utopie conceptuellement la plus solide. Elle n'a pas de présent, elle fait figure d'horizon, et cela n'implique pas qu'elle n'ait moins d'avenir.